France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Emmanuel Macron s'exprime sur la condamnation de Marine Le Pen, c'était en Conseil des ministres ce matin. La justice est indépendante, les magistrats doivent être protégés et respectés, dit le chef de l'État. Une première réaction qui n'est pas la même que celle du Premier ministre François Bayrou. Explication dans un instant. Nous parlerons également de la manifestation que prépare le Rassemblement National dimanche. Pourquoi ce choix? Et puis de la présidente du tribunal qui a rendu ce jugement. Elle est sous protection de la police. Et c'est rarissime. À suivre encore, le mal-être des Français au travail. Bonjour Cécile Bidot.
Bonjour.
Les choses ne s'améliorent pas.
Selon la dernière étude sur le sujet, près d'un salarié sur deux est en détresse psychologique. Nous sommes toujours 30% à être concernés par le risque de burn-out. En cause, la surcharge de travail, le manque de moyens et, c'est nouveau, la marche du monde. Ou quand le retour de Donald Trump modifie la manière dont nous nous parlons au bureau.
Et vos explications dans quelques minutes. Nous verrons que le port de Lyon se prépare à accueillir davantage de trafic par son fleuve, le Rhône. Tout cela pourrait mettre moins de carbone. Et que la cravache est désormais interdite dans les courses de trot en France. À partir de 13h30, le prix du livre Inter 2025. Nous vous dévoilons aujourd'hui les 10 romans en lice ainsi que les 24 auditeurs qui vont composer le jury, présidé cette année par la romancière Marie-Hélène Lafont, sous la houlette d'Eva Bétan. Plus que quelques minutes de patience. 13h50, c'est la France. La chasse aux terres rares est lancée. Et en France, ça se passe dans le département de l'Allier. Patrice Trappier, du 1 Hebdo, y est allé pour nous. Juste avant 14h, c'est une chanson. La chanteuse Juliette choisit Édith Piaf.
Padam, c'est tralala, quoi. C'est une onomatopée de chanson. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est vraiment le cœur qui bat, quoi. Padam, padam, padam. Elle est assez marrante. Il y a des notes tenues. Il y a de la puissance à mettre. Hyper jouissive à chanter.
Ce sera avec Frédéric Pommier. Et puis, dans une vingtaine de minutes, toutes les sorties cinéma de ce mercredi avec Alexis Demeyer. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Il ne s'était pas exprimé depuis lundi, depuis la condamnation de celle qui fut, par deux fois, sa rivale lors du second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a donc pris la parole ce matin en Conseil des ministres à propos du jugement qui rend Marine Le Pen inéligible pour 5 ans, au sujet aussi des critiques dont font l'objet les juges depuis le début de la semaine. Bonjour Julien Nenni.
Bonjour.
Julien, vous êtes à l'Élysée pour Inter. Le président rappelle que la justice est indépendante.
Oui, dès les premières secondes du Conseil des ministres ce matin, Emmanuel Macron a tenu à rappeler devant le gouvernement l'indépendance de la justice, alors que depuis lundi, vous le savez, tous les élus du RN dénoncent sur tous les tons ce qu'ils appellent une décision politique du tribunal de Paris. Mais le chef de l'État a aussi exprimé 2 autres rappels de principe dans le huis clos de l'Élysée ce matin, rapporté par la porte-parole du gouvernement Sophie Primas.
Les menaces qui sont faites sur les magistrats sont absolument insupportables et intolérables. Et la troisième chose, pour rappeler que chacun a le droit à une justice équivalente et que le droit est le même pour tout le monde.
Voilà, Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, qui faisait donc état des mots du chef de l'État devant le Conseil des ministres. Des mots qui ne sont pas les mêmes, ou en tout cas le sentiment n'est pas le même que celui diffusé par François Bayrou, qui lui avait fait savoir son trouble, Julien, après la décision du tribunal. On n'est pas tout à fait sur la même ligne.
Oui, Jérôme, c'est aussi comme ça qu'on peut interpréter en effet le rappel du président ce matin sur l'indépendance de la justice comme une forme de désaveu à l'encontre de son Premier ministre qui, dès lundi, vous l'avez dit, se disait troublé par la sévérité du jugement contre Marine Le Pen. Depuis, Matignon assure que c'était uniquement le citoyen Bayrou et pas le Premier ministre qui s'exprimait ainsi. Mais cette distinction est-elle vraiment tenable quand on se souvient que fin janvier, par exemple, François Bayrou, déjà Premier ministre, avait publiquement affirmé qu'il était, je cite, « très dérangeant que des jugements soient prononcés sans qu'on puisse faire appel » avant de qualifier d'injuste le procès intenté à Marine Le Pen. Pour rappel, François Bayrou lui-même avait fait l'objet d'un procès pour une affaire comparable concernant les assistants parlementaires du Modem, mais il avait, lui, été relaxé par la justice l'an passé.
Merci Julien Nenni, en direct du palais de l'Élysée où avait lieu ce matin le Conseil des ministres. Vous interveniez avec les moyens techniques d'Olivia Branger. Alors Emmanuel Macron dénonce les menaces contre les magistrats et pour cause. Bonjour Jean-Philippe Deniaud.
Bonjour Jérôme.
Depuis l'énoncé du jugement prononcé donc lundi dans ce dossier des assistants d'eurodéputés du Rassemblement national, de multiples menaces ont été formulées, à tel point que la présidente du procès est sous protection.
Oui, une surveillance renforcée de son domicile par des rondes de police. Jusqu'à présent, seuls les magistrats exposés à un risque théorique d'atteinte personnelle étaient placés sous protection policière, c'est-à-dire les juges d'instruction du pôle antiterroriste à Paris et certains magistrats des cours d'assises en charge de ces mêmes dossiers au moment du procès, avec pour les premiers une protection rapprochée 24 heures sur 24. Aujourd'hui donc, la menace ne vient plus seulement du haut du spectre de la criminalité, mais potentiellement d'un passage à l'acte isolé dans des dossiers du quotidien, parfois pour le placement d'un enfant ou pour un point de deal démantelé. Des magistrats se voient régulièrement menacés, certains au point de demander à être dessaisis de leur dossier, voire mutés dans une autre juridiction. Seul moyen pour eux de s'en sortir pour éviter un éventuel passage à l'acte ou une fragilisation de leur propre enquête. Le ministère de la Justice a mis en place une cellule d'alerte qui, selon Gérald Darmanin, avait recensé le mois dernier 150 signalements de menaces sur des magistrats, dont une quinzaine avaient abouti à des protections policières.
Merci Jean-Philippe Deniau. Le Rassemblement National a condamné, je le rappelle, ces menaces, mais il entend bien continuer à dénoncer ce jugement. L'ingérence des magistrats dans l'élection présidentielle, pour reprendre l'expression utilisée hier par Marine Le Pen. Le RN qui, après avoir hésité, a finalement décidé de contre-attaquer également dans la rue. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Avec ce rassemblement dimanche à Paris, pourquoi ce mode d'action a-t-il été choisi ?
Eh bien, pour matérialiser le soutien à Marine Le Pen, matérialiser tous les messages d'indignation qui nous parviennent, expliquent ce matin les cadres. Alors, l'image qui nous vient évidemment en tête, c'est le 5 mars 2017, François Fillon, bientôt mis en examen, ses milliers de partisans rassemblés sous la pluie au Trocadéro, son obstination à demeurer candidat. Dimanche, ce sera Marine Le Pen qui montera à la tribune, avec Louis Alliot, Éric Ciotti et Jordan Bardella, pour marteler le même message, elle ne se laissera pas éliminer. Ce très proche n'est pas surpris, je le cite, les Le Pen, quand on les combat, ils sortent les canons. Un rassemblement dont l'idée a émergé assez tôt, dès lundi après-midi, nous dit-on. Le parti a d'abord cherché une salle, en vain, puis le meeting en extérieur s'est imposé, malgré les craintes exprimées par certains des débordements. Le RN qui le promet donc, ce sera organisé et sécurisé, balayant toute comparaison avec les émeutiers du Capitole aux États-Unis. Nous, on ne marche sur rien, un cadre osant même invoquer une toute autre figure, Martin Luther King, pour nous assurer de la démarche pacifique et démocratique du parti.
Merci Élodie Forêt. Un autre rassemblement du RN est annoncé ce samedi, cette fois à Marseille. Alors depuis l'énoncé de ce jugement, une loi est sans cesse évoquée. La loi Sapin 2, du nom de l'ancien ministre socialiste Michel Sapin, qu'il avait porté en 2016. Sa loi prévoit une peine d'inéligibilité obligatoire en cas de condamnation pour détournement de fonds publics, comme ça a été le cas lundi, et donc on entend beaucoup depuis deux jours. Les juges n'ont fait qu'appliquer cette loi. Or, c'est faux. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
C'est vous qui étiez à l'audience lundi, Charlotte. Si Marine Le Pen a été déclarée inéligible, ce n'est pas en raison de cette loi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, en réalité, elle aurait dû, hein, et c'est d'où sans doute une certaine confusion, mais il faut prendre en compte ce qu'on appelle la période de prévention, c'est-à-dire la durée des faits jugés. Au départ, le tribunal était saisi des contrats d'assistant parlementaire européen conclus entre 2004 et le 31 décembre 2016. Mais, dans leur décision lundi, les juges ont estimé que les contrats conclus après l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front National ne s'inscrivaient plus nécessairement dans le cadre du système mis en place pour alléger les charges du parti. Dès lors, la fin de cette prévention, de cette période de prévention, a été ramenée au 15 février 2016. La loi Sapin 2, elle, est entrée en vigueur le 11 décembre 2016. Mmh. Elle n'était donc plus après. Applicable mmh. ici. Voilà. Et ce n'est donc pas par automaticité, mais par possibilité que les magistrats ont prononcé cette inéligibilité au nom, disent-ils, de la gravité des faits qui ont porté atteinte au jeu démocratique, mais aussi des lois postérieures, comprenez la loi Sapin 2, qui illustre, rappelle-t-il, la volonté du législateur de mieux sanctionner les manquements à la probité.
Même chose, Marine Le Pen déclarée inéligible immédiatement et pour 5 ans. Ça n'est pas non plus une conséquence de cette loi.
Non, qui est même bien antérieure, hein, puisque l'exécution provisoire peut s'appliquer aux peines d'inéligibilité depuis plus de 30 ans. Lundi, le tribunal a pris le temps de motiver longuement cette décision. On le rappelle en rappelant le mépris affiché par la défense des règles démocratiques, une conception peu démocratique de l'exercice politique et plus largement un véritable risque de récidive rendant nécessaire, indique encore le tribunal dans son jugement, cette application immédiate date de certaines peines d'inéligibilité, dont celle de 5 ans à l'encontre de Marine Le Pen.
Merci Charlotte Piret pour ces explications nécessaires. Le procès en appel des assistants parlementaires du FN devenu RN se tiendra dans les prochains mois avec décision à l'été 2026, a dit hier la cour d'appel de Paris. Toujours au calendrier judiciaire, le procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty se tiendra lui du 26 janvier au 27 février 2026 devant la cour d'assises d'appel spéciale de Paris. Et puis dans le dossier Notre-Dame de Bétarame, 48 nouvelles plaintes ont été déposées ce matin au tribunal de Pau. Nous vous l'annoncions dès jeudi dernier, ici même dans ce 13-14, dont l'une pour viol en réunion. Désormais, ce dossier compte plus de 200 plaintes. Notre 13-14 spécial de jeudi dernier est toujours disponible à la réécoute sur franceinter.fr. C'est le roi des effets d'annonce. On va donc attendre 22h ce soir pour savoir ce qu'il en est. Mais Donald Trump a prévu de sortir la grosse artillerie ce soir, la grosse artillerie des droits de douane. Mais qu'il annonce un droit de douane universel, 20% pour tout le monde, ou des droits de douane réciproques pays par pays, il tournera le dos à plus d'un siècle de politique américaine de libre-échange. Alors les partenaires commerciaux des États-Unis ont pris les devants, les 27 pays de l'Union européenne ont réfléchi à la liste des produits américains qu'il faudrait taxer en représailles. Les Britanniques, eux, explorent d'autres solutions et ils ont d'ores et déjà engagé les négociations. Bonjour Laura Kalmus.
Bonjour.
Laura, vous êtes en direct de Londres. Ils espèrent ainsi échapper au coup de massue.
Exactement. Londres travaille d'arrache-pied pour arriver à un traité commercial bilatéral avec Washington. Cette crise commerciale fait d'ailleurs la une de la plupart des quotidiens britanniques. Le Daily Mirror alerte sur 25 000 emplois menacés. Alors pour tenter d'échapper aux taxes américaines, le gouvernement Starmer serait prêt à renoncer aux 950 millions d'euros de recettes fiscales. Londres proposerait en effet d'alléger sa taxe sur les géants du numérique américain en échange d'une exemption partielle. Car les conséquences pour être lourde. Des droits de douane à 20% pourraient coûter 0,6% de croissance au PIB britannique d'ici 2027. Les constructeurs automobiles et l'industrie pharmaceutique seraient en première ligne. Dans les milieux financiers, l'inquiétude est palpable. La livre a plongé de 0,8% ce matin face au dollar. L'annonce de Donald Trump pourrait marquer le début d'une guerre commerciale transatlantique.
Merci Laura Kalmus en direct de Londres. Les Américains qui ont réagi ce matin au dernière manœuvre militaire, vaste manœuvre engagée la nuit dernière par l'armée chinoise autour de Taïwan. La Chine met en danger la sécurité régionale. Voilà ce que dit ce matin l'administration de Donald Trump. Et c'est vrai que ces nouveaux exercices interviennent quelques jours seulement après une tournée en Asie du secrétaire américain à la Défense qui en a profité pour confirmer que Washington assurerait bien la dissuasion dans le détroit de Taïwan. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Vous êtes notre correspondant. Correspondant à Pékin. Sébastien, en réponse à cette visite et à ces déclarations, la Chine a donc engagé ces dernières heures de très gros moyens.
Oui, c'est ça. Tonnerre dans le détroit. Raixia Leiting, c'est le nom de cette nouvelle opération de l'armée chinoise. Tôt ce matin, des forces terrestres, navales et aériennes se sont déployées autour de Taïwan. Une trentaine de chasseurs et 21 navires de guerre. Le porte-avions Shandong participe également à l'opération. Objectif officiel expliqué par Pékin dans la matinée. Tester un blocus de Taïwan avec des tirs réels de longue portée et des simulations de frappe sur des points stratégiques, les ports de Taïwan et des infrastructures énergétiques.
Ces manœuvres militaires avaient-elles davantage d'ampleur que les précédentes, Sébastien ? Pas forcément ?
Oui, parce que les précédentes manœuvres militaires étaient déjà imposantes. On se souvient de Taïwan encerclé en août 2022. Les exercices de ce type sont désormais réguliers. Je pense qu'il faut plutôt désormais parler d'une certaine constance de la part de la Chine, c'est-à-dire dès qu'une déclaration ou bien un événement lui déplaît sur Taïwan, aussitôt la réponse se traduit désormais par un gros déploiement militaire. Celui d'aujourd'hui est à relier avec les propos du président taïwanais il y a quelques jours. Il avait parlé de la Chine comme d'une force étrangère hostile. Et cette réponse militaire s'accompagne aussi toujours de la traditionnelle propagande communiste. Depuis hier, par exemple, les réseaux sociaux en Chine diffusent une caricature du président taïwanais William Lai sous la forme d'un parasite que d'énormes baguettes chinoises parviennent à faire capituler.
Merci Sébastien Berriot pour ces informations correspondant de France Inter en Chine. À retenir encore ce matin dans l'actualité internationale. On parle beaucoup de réarmement moment en France, eh bien la Grèce, pays membre de l'OTAN, se réarme. Le pays va consacrer 25 milliards d'euros pour la refonte de sa défense, annonce son Premier ministre. C'est tout simplement l'effort le plus important pour le pays dans son histoire moderne, dit ce matin le chef du gouvernement grec. Et puis à Jérusalem, visite ce matin sur l'esplanade des mosquées du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, figure de l'extrême droite. Ce n'est pas la première fois qu'il s'y rend depuis qu'il fait partie du gouvernement de Benjamin Netanyahou fin 2022, mais c'est sa première visite sur place depuis son retour dans le gouvernement. C'était le 19 mars. Et la Jordanie dénonce ce matin une escalade dangereuse.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
On ne sait pas encore précisément ce que ça va changer concrètement, mais la santé mentale a été décrétée grande cause nationale par le gouvernement français. Il y a tant à faire. Un exemple, près d'un salarié sur deux est en détresse psychologique au boulot. C'est l'un des chiffres marquants du baromètre sur la santé mentale au travail que dévoile le cabinet Empreinte Humaine et l'institut de sondage Opinionway. Plus étonnant, la promotion d'un management autoritaire à la Donald Trump sur le mode « vous êtes viré » pourrait encore aggraver les choses. Cécile Bidot, on vous retrouve, c'est vous qui avez détaillé cette étude. On s'arrête d'abord, Cécile, sur ce constat. Avec ce chiffre, un tiers des salariés interrogés présentent des signes de burn-out.
Oui, et 10% sont même en burn-out sévère. C'est la première cause d'arrêt de travail longue durée. Guillaume, chef d'équipe dans l'informatique à Paris, a connu un épisode d'épuisement au travail.
Je dormais très peu, donc perte d'équilibre, enfin plein de symptômes, voilà. Bah, à un moment, j'ai été voir le médecin parce que je me sentais pas bien. Et j'ai fondu en larmes dans le cabinet du médecin. Il m'a dit, hop, on s'arrête tout de suite.
Est-ce que ce burn-out vous a fait changer certaines choses, certaines manières de faire ?
Oui, j'ai changé beaucoup de choses. Je prends les choses un peu moins à cœur. Et puis j'ai tendance à relativiser en fonction des moyens qu'on me donne. En termes de moyens humains, c'est toujours pareil. On a toujours tendance à vouloir faire plus avec moins.
L'étude montre aussi une montée de l'individualisme dans les entreprises. 6 salariés sur 10 constatent une course à la performance individuelle qui démultiplie les risques psychosociaux.
Cécile, c'est la 14e édition de ce baromètre. On ne découvre pas le problème, rien ne change.
Et pour le savoir, le baromètre a sondé les managers et les responsables des ressources humaines. La moitié affirme que la santé mentale est prise en compte, avec notamment des plans de prévention. Mais la majorité des salariés, 60%, estiment que ce n'est pas une priorité dans leur entreprise. Un paradoxe que tente d'expliquer Christophe Nguyen, président du cabinet Empreinte Humaine.
On a l'impression que c'est un peu un cercle vicieux où les managers sont un peu laissés à jongler avec ces injonctions, travailler fort et en même temps s'occuper de la santé des salariés sans avoir une aide supplémentaire, alors qu'il y a de plus en plus de problèmes de santé mentale qui apparaissent, des problèmes sociaux aussi à gérer au quotidien.
Le baromètre constate que la situation mondiale pèse aussi sur la santé mentale. Un tiers des salariés interrogés estiment que le retour de Donald Trump au pouvoir favorise les propos violents au bureau.
Merci Cécile Bidot, et ce soir le téléphone sonne sera consacré à la santé mentale. Nicolas Demorand y répondra à toutes vos questions. Les émissions de CO2 dans notre pays continuent de diminuer, mais moins vite, pointé du doigt, et je vous en parlais lundi, le secteur des transports. On peut faire mieux, et notamment dans le transport fluvial, le fleuve le plus puissant de France. Le Rhône est ainsi sous-utilisé par les entreprises de transport. Alors la structure qui le gère, la Compagnie Nationale du Rhône, vient de désigner un consortium porté par le géant CMA-CGM pour développer le trafic fluvial en modernisant le port de Lyon. CMA-CGM, qui a repris depuis hier l'exploitation des terminaux du port lyonnais, affiche des objectifs ambitieux, Mathilde Imberti.
Et on ne peut que faire mieux en matière de transport fluvial puisqu'il représente actuellement 3% du transport de marchandises en France, un peu plus, 5% sur l'axe qui nous intéresse entre Marseille et Lyon. L'objectif est de doubler d'ici 2030 le fret arrivant par conteneur à Lyon, rappelle Laurence Bory-Bancel, Compagnie Nationale du Rhône.
Doublement du nombre de conteneurs traités à l'horizon 2030, hein. On va passer de 50 000 à 100 000 en 2030 et même à 120 000 à 2032, qu'on peut augmenter le transport fluvial sur le Rhône. C'est une évidence.
C'est CMA-CGM qui est chargé d'atteindre ces objectifs. La vice-présidente Christine Cabot-Morel.
40 millions d'euros sont prévus dans les 3 prochaines années. On va construire 2 faisceaux de rails nouveaux ici sur le terminal 2, créer une nouvelle plateforme de stockage de 3 hectares. Il faut qu'on essaye de proposer des solutions qui vont, pour les entreprises, leur faire se poser des questions.
Car les commandes partent des entreprises avant tout, c'est bien elles qu'il faut convaincre. La Chambre de commerce et d'industrie de Lyon va se lancer dans une campagne de promotion du fluvial. Guy Baculard, élu de la CCI.
Il faut ouvrir, on va dire, l'ensemble des choix pour pouvoir faciliter notre export et surtout rendre cet export aussi plus fiable et également plus propre pour notre planète.
Contourner le recours systématique aux camions qui, entre Marseille et Lyon, sont encore les patrons. Ils assurent 80% du transport de marchandises.
Reportage Mathilde Imberti à Lyon pour Inter. Là, il s'agit de la pollution des sols autour de l'incinérateur d'Ivry, tout près de Paris. C'est tout simplement le plus gros incinérateur d'ordures ménagères d'Europe. Une nouvelle étude confirme cette pollution alentour, y compris dans les cours d'école. C'est un organisme indépendant néerlandais, Toxico Watch, qui a effectué ces analyses et qui l'a conduit sur en fait tous les gros incinérateurs d'Europe et depuis plusieurs années. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
On attendait ces chiffres avec impatience et ils relèvent des taux de dioxine et de métaux lourds parfois très élevés dans la commune.
Oui, ces chercheurs néerlandais ont fait des prélèvements en octobre 2024 et en février dernier autour de l'incinérateur, vous le disiez notamment dans les cours d'école. Ils ont collecté des échantillons de mousse. Ce végétal, c'est un peu comme une éponge à polluants atmosphériques. Eh bien, le niveau de métaux lourds détectés, plomb, aluminium, arsenic, sont préoccupants d'après le toxicologue qui mène cette étude de biosurveillance, Abel Arkenboot.
On a pris des échantillons de mousse dans le cimetière d'Ivry et on les a comparés avec ceux prélevés dans les cours d'école. On a trouvé des niveaux élevés de métaux lourds. Par exemple, pour l'arsenic, un élément très toxique, on a trouvé parfois des niveaux 300 fois supérieurs dans les mousses des écoles.
Les prélèvements de mousse montrent aussi des concentrations de dioxine supérieures aux valeurs limites européennes pour la sécurité alimentaire.
Est-ce qu'on peut dire, pour autant, Sandy, que c'est l'incinérateur qui est à l'origine de cette pollution ?
Eh bien, c'est toute la question. Pour le collectif 3R qui milite contre l'incinérateur depuis des années, ça ne fait aucun doute. De son côté, le SICTOM, le syndicat des ordures ménagères, dit respecter scrupuleusement la réglementation. Il renvoie à un rapport de l'Agence régionale de santé publié en 2023. Ce rapport dit en substance qu'il n'y a pas de différence significative entre la pollution des sols près des incinérateurs et les sites plus éloignés. Quant au chercheur néerlandais de Toxico Watch, il dit qu'il y a présomption, les incinérateurs peuvent émettre des dioxines et des métaux lourds, mais pour faire un lien scientifiquement établi entre la pollution détectée dans les mousses et l'incinérateur d'Ivry, il faut maintenant, dit-il, étudier ce qui sort exactement des cheminées.
Merci Sandy Dauphin. Vous connaissez sans doute cette expression « il va falloir cravacher » pour dire « il va falloir accélérer ». Eh bien, elle est en partie caduque car depuis hier, l'utilisation de la cravache par des jockeys sur leur cheval, dans les compétitions de trot, dans notre pays mais également en Europe, l'utilisation de la cravache est désormais interdite. Laurent Kramer s'est rendu ce matin dans un centre d'entraînement de trotteurs. C'est le domaine de Grosbois, à Marolles dans le département du Val-de-Marne.
Jusqu'à 1600 chevaux s'entraînent ici dans ce centre hippique.
Douce, voilà.
Champion du monde en 2013, Pierre Vercruis est l'un des plus grands trotteurs français.
Le changement primordial, c'est qu'il y a un respect de l'animal. On a évolué, ils ont évolué. On aime nos chevaux, on n'est pas des tortionnaires.
Les coups de cravache disparaissent donc des compétitions, elles n'ont jamais été efficaces.
Non, la cravache ne va pas vous faire gagner une course. Il va vous la faire perdre. Parce que si vous êtes trop brutal ou maladroit avec votre cravache, vous allez déséquilibrer votre cheval, lui faire peur et le mettre au galop. Et c'est tout ce qu'on veut éviter. Voilà, c'est pas la cravache qui va vous faire gagner.
Sous l'impulsion européenne, ces derniers coups de cravache seront désormais interdits en compétition. Un changement culturel qui va dans le sens de l'histoire, se réjouit le jockey.
C'est vraiment quelque chose de positif pour nous, pour eux, surtout pour eux évidemment, pour l' ensemble de la société. Les gens, on n'aime pas voir un enfant prendre une claque et on n'aime pas voir un cheval prendre un coup de cravache. Fouette cochée, oui, c'est fini. Et c'est très, très bien comme ça.
Des jockeys qui seront lourdement sanctionnés en cas de coup de cravache en compétition avec des interdictions de participer à des compétitions.
Cravache qui reste autorisé pour le galop, en revanche. Laurent Kramer pour ce reportage. Le cinéma.
Moteur.
T'as de beaux yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
Et les sorties de ce mercredi. Bonjour Alexis de Meyer.
Bonjour Jérôme.
Vous nous recommandez d'abord et en premier lieu, et donc pour commencer, un documentaire chinois. Deuxième volet de la trilogie jeunesse de Wang Bing.
Oui, j'ai un très gros coup de cœur pour Les Tourments, car c'est ainsi que se nomme la deuxième partie de cette somme documentaire. Après avoir planté le décor, celui des ateliers de confection de la grande banlieue de Shanghai dans le premier volet, sélectionné à Cannes il y a 2 ans, le cinéaste chinois Wang Bing évoque ici l'exploitation dont sont victimes les jeunes ouvriers de l'industrie textile. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore précisé, Jérôme, c'est la durée de ce documentaire, 3h46, ce qui peut évidemment vous refroidir et refroidir une partie de nos auditeurs, mais je vous promets que Les Tourments méritent un petit effort, tant ce documentaire est nécessaire sur tout ce qu'il dit de la Chine et de la mondialisation, mais aussi parce que sa puissance visuelle est irrésistible. Wang Bing enchaîne des plans séquences d'une virtuosité assez unique dans le paysage cinématographique actuel.
Ah, un biopic, Alexis, ça faisait très longtemps. Cette fois-ci, c'est celui de Frantz Fanon qui débarque au cinéma.
Oui, c'est au tour du médecin et intellectuel martiniquais d'avoir droit à son moment de gloire sur grand écran. Le réalisateur Jean-Claude Barny évite l'écueil de la frise chronologique exhaustive pour se concentrer sur les dernières années de la vie de Fanon, celle où il réside en Algérie pour y diriger le service psychiatrique de l'hôpital de Blida.
Le langage du colon quand il parle du colonisé est un langage zoologique. On fait allusion à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations.
Malgré une réalisation beaucoup trop académique, ce biopic a la bonne idée de mettre la lumière sur cette grande figure de la décolonisation qui a joué un rôle clé dans l'indépendance de l'Algérie, ce qui résonne forcément avec l'actualité, rendant le projet d'autant plus pertinent.
Vous nous conseillez également un film d'animation sur la déforestation, ça s'appelle Ozzy, la voix de la forêt.
Moi, c'est Ozzy. Quand j'étais petite, j'ai été séparée de ma famille.
C'est un certain Leonardo DiCaprio qui produit ce sympathique dessin animé tout public qui sensibilise aux ravages écologiques provoqués par la production d'huile de palme. L'héroïne, c'est donc Ozzy, une jeune orang-outan recueillie par une ONG après avoir perdu ses parents lors d'un dramatique feu de forêt. Mais Ozzy compte bien les retrouver et dénoncer l'exploitation forestière d'une multinationale prise en flagrant délit de greenwashing. À la fois influenceuse et lanceuse d'alerte, la petite primate nous entraîne dans des aventures qui évoque parfois le roi lion ou migration, mais avec un sous-texte politique nettement plus travaillé.
Quoi d'autre à l'affiche aujourd'hui, Alexis ?
Cassandre, un drame bourgeois sur l'inceste signé Hélène Merlin, Deux sœurs, la nouvelle comédie dramatique du vétéran anglais Mike Lee, et The Grill, formidable film mexicano-américain tourné dans les cuisines d'un restaurant de Times Square à New York.
Merci Alexis de Meyer. Qui pour affronter le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France de football, deuxième demi-finale ce soir, l'AS Cannes reçoit le Stade de Reims. 4 divisions d'écart entre les deux clubs puisque les Rémois évoluent en Ligue 1. Le Stade cannois sera plein, mais l'entraîneur Damien Hott, lui, veut garder le calme autour de ses joueurs.
On est tout à fait serein. Je pense que le club gère bien l'événement. On ne se disperse pas et on ne se pollue pas l'esprit avec, justement, en intervenant tous les jours avec des médias. On est bien concentré sur ce qu'on a à faire. En tout cas, on ne s'est pas du tout ni dispersé par rapport à l'événement. Je pense que c'est notre recette depuis le début. Depuis les premiers matchs, on ne s'est jamais ni enflammé ni dispersé à faire quoi que ce soit. On est simplement heureux de vivre ce qu'on va vivre.
Et les Cannois pourraient devenir ce soir le 6e club amateur à atteindre la finale de la Coupe de France. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Puis à partir de 13h30, quels seront les livres candidats au prix du livre Inter 2025, qui seront les 24 jurés sélectionnés pour choisir. Fin du suspense dans quelques minutes. Nous sommes avec Marie-Hélène Lafont, la présidente du jury cette année, et Eva Béton. 13h45, notre feuilleton. Comment travaillent les agents de l'Office français de la biodiversité, si critiqués depuis quelques mois? Ils nous ont ouvert leurs portes. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Patrice Trappier du 1 Hebdo et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Patrice, vous nous emmenez dans l'Allier.
Oui, je vais vous parler de ces terres rares qui font l'objet d'une féroce compétition mondiale et d'un projet de mine de lithium dans l'Allier qui fait polémique.
Également, et avec vous Frédéric, une chanteuse.
Oui, la chanteuse Juliette, que vous pourrez retrouver 4 soirs cette semaine au musée d'Orsay dans des soirées spectacles organisées autour de notre ami François Morel. Et avec elle, c'est la chanson « Pas d'âme » que l'on écoutera, chanson de notre ami Édith Piaf.
Oui, on peut le dire. Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Ali Rebehi signe un nouvel opus de sa série à succès, Dentalis Enquête. Prof de droit à la retraite, Alice Bonneville doit présenter une émission de faits divers. Mais l'animateur qui lui en fait la proposition est retrouvé mort. Accident ou crime ? Dentalis n'a pas fini de mettre son nez là où il ne faut pas. Meurtre en chaîne, le nouveau roman d'Ali Rebehi aux éditions du Masque.
Le temps de votre après-midi.
La météo. Avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Du soleil au nord, mais c'est plus nuageux et instable dans le sud.
Oui, le ciel restera quasiment tout bleu de l'embouchure de la Loire à l'Orléanais et au Grand Est jusqu'aux côtes de la Manche, à l'Île-de-France et aux frontières de la Belgique. Entre le centre-Val de Loire, le Jura, le Lyonnais et la Haute-Savoie, l'après-midi sera aussi ensoleillé, mais le ciel va avoir tendance à se voiler. Des bandes nuageuses vont aussi atténuer les apparitions du soleil entre le midi toulousain, les Pyrénées-Orientales ou encore les plaines du Languedoc, ainsi que sur les plages de la Côte d'Azur. Et puis sur le reste de la moitié sud, les éclaircies seront plus timides, les nuages seront parfois menaçants. Des averses sont d'ailleurs attendues, notamment sur les frontières des Pyrénées et des Alpes. C'est sur la Nouvelle-Aquitaine que les averses seront les plus actives, avec des risques d'orage. La Corse sera globalement à l'écart de ce temps instable et bénéficiera du soleil, hormis en Balagne, où vous pourrez avoir quelques averses pour cet après-midi. Et puis, il faut aussi composer avec beaucoup de vent cet après-midi, de secteur nord-est. Les rafales sont de l'ordre de 50 à 60 km par heure. Mais en Occitanie, les rafales seront plus fortes, en particulier dans le domaine du vent d'Otan. On pourra atteindre plus de 90 km par heure à Toulouse et plus de 100, voire 110 dans le Lauragais. Et puis côté température, les maximales sont assez homogènes, que vous soyez au nord comme au sud. On attend 14 à 20 degrés avec 18 degrés à Paris, Lille, Dijon, Perpignan ou encore Bastia.
Et je rappelle que Calais a été la ville la plus ensoleillée de France au mois de mars. Voilà, plutôt une statistique et une information étonnante. Merci Sébastien Léas, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Il y a les jours qui rallongent, il y a le changement d'heure, il y a les premiers bourgeons, mais le signe de l'arrivée du printemps sur Inter, c'est le retour du prix du livre Inter, la révélation des 10 livres en compétition et des 24 jurés qui vont former le jury 2025 pour ce 51e prix, qui fête donc cette année ses 50 ans. Jury présidé pour l'occasion par Marie-Hélène Lafont, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans ce 13-14, vous êtes romancière, vous avez reçu de nombreux prix littéraires, dont le prix Goncourt de la Nouvelle en 2016, le prix Renaudot en 2020 également. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je salue également Eva Bétan, bonjour.
Bonjour.
La grande ordonnatrice de ce prix du livre Inter. Tout va bien Eva, plaisir de se retrouver en ce début du mois d'avril.
Vous savez, on ne peut pas se lasser du livre Inter parce que tout est pareil et tout change. Vous lisez les lettres des jurés, c'est chaque fois des personnes que vous découvrez. Et les livres, il y a une production permanente, donc vous n'êtes jamais dans la répétition. C'est toujours différent et c'est formidable. Moi, je dis toujours que même si j'étais misanthrope, lire les lettres du livre Inter me réconcilierait
avec la nature humaine.
Je ne suis pas du tout misanthrope, mais ça me réconcilierait avec la nature humaine.
Vous avez lu, pas toute seule, on va le préciser dans quelques instants, ces lettres. Elles étaient une nouvelle fois nombreuses cette année.
2342 lettres, très exactement. Et effectivement, je voudrais les remercier. Nous sommes 24 à lire les lettres du livre Inter. On se partage la France, si vous voulez. Chacun d'entre nous présélectionne 5 lettres et tous les lecteurs de lettres se réunissent pendant une journée. On s'entretue, on va le dire clairement, parce qu'on veut défendre celui-ci ou celle-là. Il y a des gens que vous connaissez, comme Patricia Martin, Dorothée Barba, Frédéric Pommier est un lecteur de lettres. Il y a des gens que vous connaissez moins, qui jouent un rôle essentiel, comme Anne Odigier, par exemple, qui s'occupe de tout ce qui est beaucoup plus de choses que ça, mais tout ce qui est aussi le livre Inter sur le site internet, ou Charlotte Saval du service de presse. Donc c'est vraiment des gens de tous les secteurs de la maison qui le font pro bono, j'ai envie de dire, pour le plaisir. Pour le plaisir, justement, ce contact avec les lecteurs. Et parce que c'est chouette, le livre Inter, il faut le dire simplement.
Marie-Hélène Lafont, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui à l'idée de retrouver dans quelques semaines maintenant ces auditeurs, lecteurs ?
En grand appétit. Les lettres des lecteurs donnent de l'appétit. Elles donnent de l'élan. Elles donnent de l'allant. De l'énergie. Il y a une énergie, c'est une source. Véritablement, et ce que disait Eva Bétan au sujet de, voilà, si l'on était misanthrope, il faudrait faire une cure de lettres, voilà, ouais. Pour s'en remettre, je ne le suis pas non plus, et ces lettres sont vraiment étonnantes, et pour moi, de surcroît, c'est la première et l'unique fois que je peux les découvrir. Et elles sont, pour certaines d'entre elles, de surcroît extrêmement belles.
Oui, très
la langue des lettres est parfois très belle. Et elles sont pleines d'une énergie qui fait un bien fou.
Ça vous donne envie d'écrire ? Ça vous donne l'énergie d'écrire ?
Presque.
Ça vous a donné des idées, peut-être ? Je ne sais pas.
J'en manque pas tout à fait, mais non, disons que c'est...
Ça, j'ai cru comprendre.
Voilà, c'est l'intensité, la densité et l'intensité qui sont très, très émouvantes et alors, nourrissantes.
On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. On va le faire durer un petit peu pour les auditeurs et les auditrices, mais on va le lever pour les 10 livres qui ont été retenus. Juste avant, Eva, est-ce que vous pouvez me dire comment les livres sont choisis ?
Oui, bien sûr. Il y a 57 critiques de toute la presse, nationale, régionale, tout type de support, qui m'envoient chacun la liste de leurs livres préférés, de romans écrits en français, parus depuis la rentrée de septembre et qui n'ont pas eu de prix important. Et jusqu'à fin mars, et je retiens les livres qui ont été le plus aimés, qui ont eu le plus de voix, forment la sélection. Et tous ces critiques, pardon de faire la journée des remerciements, mais je vais les remercier parce qu'ils le font vraiment d'une manière sympa, ils n'y gagnent rien, ils le font par amitié, parce qu'ils aiment bien le livre Inter, je crois.
Et il est hors de question pour eux de sortir de la liste. Ils sont très attachés au fait de participer.
Ah oui, franchement,
à cette
même les années du Covid où on travaillait à distance, ils ne m'ont pas laissé tomber. Je les remercie tous.
Vous commencez,
allez,
Eva,
je commence.
Je vous laisse l'honneur. Alors, pour les 10.
L'hospitalité aux démons est écrit par Constantin Alexandrakis, édition Verticale.
Deuxième livre retenu, Toutes les vies de Théo de Nathalie Azoulay, c'est chez POL.
Oui. Le mal joli de Emma Becker est publié par Albin Michel.
Retenu également Bristol de Jean Echenoz, c'est aux éditions de Minuit.
Également Archipel de Hélène Gaudy aux éditions de L'Olivier.
Aimé Gilles de Chan Haddad, chez POL également.
Aucun respect de Emmanuel Lambert chez Stock.
Dans la liste des 10, Coyote de Sylvain Prudhomme aux éditions de Minuit.
Et aussi Un perdant magnifique de Florence Sévos aux éditions de L'Olivier.
Et le dernier de cette liste, Mon vrai nom est Elisabeth, signé Adèle Hillon. C'est aux éditions du Sous-sol, ça nous en fait donc 10 précisément en lice pour ce prix du Livre Inter 2025. Marie-Hélène Lafont, je suppose qu'on n'écrit pas pour recevoir un prix, mais au fond, quand on est en compétition, on défend toutes ses chances. Comment est-ce que vous, qui avez participé à ces compétitions-là, vous l'avez vécu et vous le vivez?
On le vit comme une chance justement d'élargir, si vous voulez, la palette de ses lecteurs, de toucher un nombre de lecteurs plus important,
plus large.
Voilà, plus large. Hein. Une chance, plutôt qu'un risque, on va dire. Voilà.
C'est le cas du Livre Inter, Eva Béton.
Tout à fait.
Oui, bien sûr, il a un effet qui est important, je dirais, en vente, mais les ventes, ça veut dire en gens, personne qu'on a atteinte. Par exemple, Mathieu Bellesi, ça a dépassé 100 000 exemplaires. Oui, je dirais que l'étiage, c'est au moins sa triple ou quadruple ou quintuple le nombre de livres déjà vendus, si ce n'est beaucoup plus.
On va passer aux auditeurs,
oui,
et auditrices et aux jurés, parce que là je me mets à leur place, les 2000 qui ont écrit, ça devient complètement intenable. Je vous laisse l'honneur aussi, Eva, on commence par les jurés femmes.
Je rappelle que c'est par ordre alphabétique. Mélanie Benedetti est assistante commerciale, elle a 49 ans, elle vit à Latte dans l'Hérault.
Ahmed Bah est juriste en droit social, il a 31 ans, il vit à Décines-Charpieu dans le département du Rhône.
Anna Boulou est chargée d'exposition dans une fondation d'art. Elle a 27 ans. Elle vit à Saint-Ouen-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis.
Wesley Bénard est cardiologue. Il a 29 ans. Il nous écrit de Coudekerque Village, c'est dans le Nord.
Monique Chestakova-Macon est retraitée. Elle était précédemment professeure d'histoire et proviseur. Elle a 73 ans. Elle vit à Lingolstein, dans le Bas-Rhin.
Jean-Marc Bourillon, retraité également, 48 ans, de Lézé, c'est en Saône-et-Loire.
Emmanuelle Constantin est maraîchère bio. Elle vit à Oléron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques.
Fabrice Derval est cantonnier communal à Châteauneuf-d'Entrône. C'est dans les Alpes-Maritimes. Il a 42 ans.
Marie Deriquer, Carfatan, est orthophoniste. Elle a 51 ans. Elle vit à Meudon dans les Hauts-de-Seine.
Lassène Gourassi est responsable cybersécurité à Paris. Il a 43 ans.
Quant à Audrey Fenestre, elle est chargée de communication, 46 ans, à Salvagnac, dans le Tarn.
Fabrice Laudrin est psychanalyste, il a 60 ans, il vit à Pont-Aven, dans le Finistère.
Élodie Gruit est enseignante, 47 ans, elle habite à Créteil dans le Val-de-Marne.
Maxime Laurent Montagne dirige une bijouterie-horlogerie à Zurich, en Suisse, il a 38 ans.
Florence Guillermé est bergère, elle a 53 ans, elle vit à Lentiole en Isère.
David Lefranc est informaticien à Orléans, il a 50 ans.
Quant à Gwenola Martin-Gonzalez, elle est directrice de la formation professionnelle d'un établissement financier public. Elle a 47 ans, elle habite à Paris.
Raphaël Londinski habite également à Paris. Il est publicitaire, il a 32 ans.
Raphaël Philippe est professeur de lettres. Elle a 49 ans, elle vit à Nantes.
Sylvain Marchoux habite Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Il est photographe, il a 60 ans.
Christine Ponchy est retraitée, elle était précédemment secrétaire, elle a 76 ans, elle habite à La Rochelle.
Dans notre jury également, Aurélien Niel de Nyons dans la Drôme, il a 45 ans, il est professeur des écoles.
Claire Verrier est consultante en finances locales, elle a 40 ans, elle vit à Livarot, Pays d'Auge, dans le Calvados.
Et le 12e juré homme est Didier Thomé, ou Tom, je ne sais pas comment ça voilà. Se prononce, mais il nous le dira.
Il se reconnaîtra.
Il est retraité, ancien bibliothécaire, il habite Soissons dans l'Aisne et il a 35 ans. On en est à 24, chère Eva ? 12 et 12 ?
Oui, ben c'est bon.
Et ben voilà, c'est bon. Si vous êtes dedans, je vous dis bravo. Vous serez parmi nous le dimanche 1er juin pour les délibérations. Le 2 juin pour la proclamation du prix. Si vous n'êtes pas dedans, vous retenterez votre chance oui. L'an prochain. Et puis vous pouvez tout de même lire les livres de votre côté. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est ce que font certains auditeurs. Mmh. C'est ce que vous avez fait l'année dernière, Emmanuel. Bonjour.
Bonjour, ben oui, tout à fait.
C'est ça ?
Tout à fait. Alors, ben oui, j'ai pas concouru. J'ai une amie qui avait concouru, enfin, qui avait candidaté pour le jury. Elle n'a pas été retenue et ben, je lui ai proposé qu'on lise le livre et qu'on se retrouve à la même période, premier week-end de juin, qu'on se retrouve à Paris et qu'on débatte. Et c'est ce qu'on a fait et c'était un moment extraordinaire.
Emmanuel Constantin, vous êtes maraîchère dans le Pays Basque, c'est ça ?
Alors, c'est le Béarn.
Ah, c'est le Béarn. Bon, c'est le Béarn. Faites bien de préciser, j'ai fait une grosse bourde. Quel est votre légume phare, Emmanuel ?
La tomate ou les tomates.
Les tomates, exactement. Productrice oui. De tomates dans le Béarn. Vous jardinez, Marie-Hélène Lafont ? Ça fait partie de...
C'est ma sœur qui jardine, qui a la main verte. Et moi, je me contente de manger et d'admirer les fleurs.
Un mot, Emmanuel. Vous disiez dans votre lettre que la période, pour, quand on est maraîchère chargée, c'est avril à octobre. Comment vous allez faire ?
Je vais peut-être profiter de mes insomnies, comme j'ai fait un peu l'an dernier pour lire. Et je vois que je suis capable de le faire. Et en plus, ben, d'être retenue, ça mobilise beaucoup d'énergie. Et ben, je serai capable de le faire. Voilà, je vais réussir.
Quand est-ce que vous lisez, Emmanuel ?
Le soir, plutôt.
Après la journée de boulot.
Voilà, après la journée de travail, après le dîner. Alors, en général, c'est pas forcément très longtemps. Une demi-heure, trois quarts d'heure, ça dépend du livre que je lis.
Et vous serez avec nous pour les délibérations, et puis il va falloir lire ces 10 livres dans les mois qui viennent. Merci et encore bravo Emmanuel, et on a hâte de vous retrouver ici dans le studio de France Inter. Marie-Hélène Lafont, comment s'est fait pour vous la rencontre avec les livres ? Il y avait des livres chez vous quand vous étiez petite dans le Cantal ?
Il y en avait très peu. C'était une denrée rare et donc on la désirait beaucoup. Et j'ai été très frappée dans les lettres, dans plusieurs de ces lettres. Il est question de ça justement. Il est question de la légitimité à devenir juré du prix du livre Inter, alors que on n'avait pas de livre dans l'enfance et qu'on est arrivé au livre par l'école et par les professeurs. Il y a des itinéraires de lecteurs qui se dessinent et qui sont très très beaux dans ces lettres.
Itinéraire de lecteurs extrêmement étonnant, celui d'Ahmed. Bonjour Ahmed.
Oui, bonjour tout le monde.
Ahmed Bah, 31 ans, vous êtes juriste en droit social, vous avez été retenu comme juré. Je voudrais que vous nous racontiez comment vous avez rencontré les livres et la lecture, vous qui avez grandi en Guinée, je crois.
Effectivement, en fait, donc j'ai grandi en Guinée et j'ai rencontré la lecture à travers les BD qu'on m'a passé en fait quand j'étais gamin. J'avais pas forcément en fait des livres chez moi. Et à partir de là, ça a été une vraie aventure littéraire et humaine parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire vivre plusieurs vies à la fois à travers des personnages, que ça soit du Gabriel Garcia Marquez dans la jungle américaine, en passant par Raskolnikov ou même par Camus. Donc ça a été une réelle en fait passion et qui me poursuit jusqu'aujourd'hui.
Vous avez écumé, je sais pas si c'est le bon mot, les bibliothèques.
Effectivement, en fait, les bibliothèques, je les ai découvertes plus tard parce que en Guinée, ce qu'on avait souvent, c'est ce qu'on appelle les librairies par terre. Donc, c'est des marchands qui s'improvisaient libraires dans la rue. Donc, le soir, on pouvait en avoir. Et à mon arrivée, en fait, ensuite en France, j'ai pu voir, en fait, un merveilleux service public qui était les bibliothèques. Donc, là, j'ai pu élargir mon répertoire, rencontrer des auteurs de toutes les contrées du monde, que ce soit de l'Asie en passant par l'Afrique, en passant par l'Europe, l'Océanie. Donc ça a été vraiment un réel coup de cœur, cette découverte des bibliothèques.
Et elle va se poursuivre, cette découverte de la lecture, à la faveur de ce prix du Livre Inter. Bravo Ahmed, merci d'avoir été avec nous. Il nous reste quelques secondes. Une réaction, Marie-Hélène Lafont, à ce que Ahmed vient de nous dire.
Oui, c'est un parcours d'autant plus émouvant qu'il est très universel et qu'il embrasse à la fois des littératures, des espaces, des pays. Bibliothèque et bibliobus, il est question du bibliobus dans certaines de ces lettres, c'est-à-dire le livre qui va dans les petites écoles et les lieux excentrés.
Eva Béton, un dernier mot.
Juste un mot, pour l'hommage rendu au prof, je voudrais citer trois noms de professeurs. Oui. Monsieur Vigouroux, vous avez marqué un de nos jurés. Monsieur Pourcelot, idem, et Madame Touze ou Touzé, je ne sais pas, mais sachez qu'ils nous disent des choses formidables sur vous, le rôle que vous avez joué dans leur vie.
Le rôle des passeurs en lecture.
Des intercesseurs.
Extrêmement important, vous qui êtes professeur également, Marie-Hélène Lafont, je crois même que c'est votre dernière année.
Tout à fait.
Avec vos élèves, on aura l'occasion d'en reparler avec vous. On salue également
mot,
les bibliothécaires qui nous écoutent, et parce qu'Ahmed les saluait à l'instant. On n'a plus du tout de temps, j'ai déjà dépassé 30 secondes.
Juste dire qu'il y a des mots formidables sur Marie-Hélène Lafont dans nos lettres. C'est tout.
Merci à toutes les deux, Marie-Hélène Lafont et Eva Béton. Et je rappelle qu'on présentera chaque jour, pendant deux semaines, dans ce 13-14, les 10 livres en compétition. Ce sera fin mai, 13h46 sur Inter. Il est plus que l'heure de notre feuilleton. Nous passons cette semaine avec les inspecteurs de l'environnement dans le département de l'Yonne. Les agents de l'OFB remis en cause ces derniers mois pour leur contrôle des agriculteurs. Pourtant, leurs missions sont beaucoup plus larges et nous le découvrons cette semaine grâce à notre reporter Célia Kiré qui s'est rendue au bord d'une rivière. Un ancien moulin devenu un barrage hydroélectrique. L'OFB contrôle cet ouvrage pour vérifier qu'il est conforme aux normes. Il ne faut pas qu'il bloque les déplacements de poissons.
Je vous suis.
Eh ben, on va rentrer dans l'installation avec monsieur Vaudois, l'exploitant.
Bonjour.
Bonjour. Donc du coup, on arrive auprès de l'installation, du complexe hydroélectrique, on va dire. Et là, devant nous, on a un dispositif. C'est la prise d'eau, en fait. C'est ce qui permet de prendre une partie du débit du cours d'eau de l'Armançon pour le faire transiter à travers des chambres d'eau et des turbines, donc qui, derrière, vont permettre la production d'hydroélectricité. Et là, au pied de nous, en fait, on a donc un plan de grille incliné associé à des exutoires de dévalaison en fait, qui permettent aux poissons de ne pas passer dans les turbines. Ça permet aux poissons vraiment de pouvoir dévaler le cours d'eau.
Et là, on entend la passe à poissons. Hein.
On voit une succession de bassins qui permet aux poissons de remonter là, de l'aval vers l'amont du cours d'eau. Par rapport à la capacité de saut, à la capacité de nage, à l'endurance des poissons. Et aujourd'hui, on est plutôt devant un ouvrage fonctionnel et voilà.
Donc là, si un poisson passe là dans ces méandres de la rivière, ça va, il va s'en sortir.
Il va s'en sortir, il peut se reposer dans les bassins parce qu'on voit qu'il peut trouver à l'intérieur de chaque bassin des zones de repos un petit peu et franchir l'obstacle en plusieurs fois sur un laps de temps un petit peu plus long selon les espèces. Et oui, ça peut tout à fait remonter, sous réserve que le dispositif soit bien entretenu comme celui-ci en fait.
C'est quel poisson qui passe là ?
Sur l'Armançon, ça va être principalement des cyprinidés d'eau vive. De l'anguille, elle a besoin vraiment de, pour faire son cycle, de franchir ce genre d'obstacle à l'écoulement et vraiment dans les deux sens, quoi, montaison, dévalaison. Si on avait des grilles avec des barreaux plus espacés, il y aurait un risque qu'elle passe dans les turbines et là, effectivement, on aurait une grosse perte. Du poisson peut dévaler dans cet ouvrage et il y a eu des études qui ont été menées en fait et le poisson il ressort vivant en bas de la turbine, sans problème.
Et ça vous arrive parfois de voir des gérants d'hydroélectricité qui ne respectent pas les règles?
Ça arrive globalement, c'est assez bien suivi, mais ça arrive. Et nous derrière, on peut être amené à rédiger un rapport en manquement administratif. Mais derrière, vraiment l'intérêt de cette police administrative, c'est de retrouver la conformité de l'ouvrage rapidement en fait.
Donc c'est pas un sujet de tension vraiment?
Non, c'est une forme de compromis qui satisfait quand même globalement aussi bien l'exploitant que nous qui sommes là pour veiller aux enjeux de biodiversité en fait.
J'exploite la centrale où on se trouve. On produit de l'électricité pour consommer de manière la plus propre possible. L'hydroélectricité, c'est l'énergie la plus verte qu'on puisse sortir à l'heure actuelle. Mais derrière, s'il y a un impact sur l'écosystème, il faut qu'il y ait des solutions qui soient prises et ensemble, on réfléchit à des solutions. On n'est pas toujours d'accord, ça serait vous mentir qu'on est toujours d'accord, mais on essaye de construire et d'avancer ensemble pour, et d'un côté, sortir du courant, ce qui me fait vivre, on ne va pas se mentir, et de l'autre côté, réduire l'impact que peut avoir l'installation sur les poissons. Je suis assez jeune, hein, j'ai 24 ans, et quand j'écoute les histoires d'antan, quand mes grands-parents sortaient du poisson à main nue, le poisson était roi dans la rivière, on utilisait déjà la force motrice pour soit entraîner des moulins ou soit produire l'électricité dans les années 50, et que maintenant on fait la même chose avec des systèmes plus écologiques qui permettent aux poissons de circuler librement, mais que malheureusement les populations de poissons ont du mal à repartir et on voit des espèces qu'on ne connaissait pas comme le silure maintenant qui débarquent sur nos cours d'eau et qui chamboulent complètement l'écosystème de la rivière.
Deuxième épisode de notre feuilleton signé Célia Kiré, réalisation Stéphane Ronxin.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mercredi à 13h50, le regard du 1 Hebdo aujourd'hui avec Patrice Trappier. Terres rares, pourquoi le monde se les arrache? C'est donc à la une du 1 aujourd'hui, Patrice. Et c'est un débat qui secoue le département de l'Allier. Vous vous y êtes rendu?
Oui. Commençons, Jérôme, par imaginer une forêt magique de hêtres et de chênes dans l'Allier, donc la forêt des Colettes, l'une des plus belles d'Europe. Avec la rivière La Sioule, cette forêt constitue une oasis de biodiversité. On y trouve des écrevisses, des cigognes, des castors, des plantes rares et même des chats sauvages. C'est là que devrait ouvrir en 2028, la mine de lithium des Chassières, où je me suis rendu pour notre numéro du 1.
Pouvez-vous nous expliquer, Patrice, ce qu'on entend par terre rare?
La précision n'est pas inutile. Même Donald Trump a pu s'embrouiller sur un sujet pourtant au cœur des négociations sur la fin de la guerre en Ukraine ou les velléités de conquête américaine du Groenland. Disons que les terres rares font partie d'une quarantaine de métaux essentiels à notre vie bourrée d'électronique. Les uns, comme le lithium, sont des superconducteurs indispensables pour les batteries électriques. D'autres ont d'incroyables pouvoirs magnétiques qui permettent, par exemple, le mouvement des éoliennes.
Dans l'Allier, on parle donc d'un projet de mine colossal.
Oui, ce sera l'une des mines les plus importantes en Europe qui pourrait fournir jusqu'à 34 000 tonnes de lithium par an, 2 à 3% de la production mondiale actuelle, de quoi équiper chaque année 700 000 batteries de voitures et les électriques pendant près d'un demi-siècle. Pour tenir les objectifs, on devra extraire 2 millions de tonnes de granit par an qui seront concassées, transformées en mica, puis raffinées en lithium à Montluçon. Ce granit, la société exploitante Imerys a promis de le réinjecter dans le sous-sol avec du béton, mais ces opérations vont nécessiter de pomper de l'eau dans la Sioule et dans le Cher, sans compter les produits chimiques nécessaires au raffinage.
Et ça provoque des oppositions locales.
Bien évidemment. Il faut dire que dans cette région, on a extrait tout un tas de minerais depuis l'époque gallo-romaine. Rien que la forêt des Colettes a abrité de nombreuses carrières de kaolin, dont une toujours en activité depuis près de 2 siècles, et une mine de tungstène qui a laissé pas mal d'arsenic et de plomb dans la terre 60 ans après sa fermeture. Sur place, les partisans de la mine se font discrets, ce sont plutôt les défenseurs de la forêt qui dominent les débats. Il faut dire qu'entre la nature et l'emploi auquel on ne croit plus vraiment, et les mines sont de plus en plus automatisées, le choix est vite fait. Et pourtant, personne ne pense sérieusement que la mine ne va pas ouvrir. Le Covid, la guerre en Ukraine, les oukases de Trump ont remis en avant la question de la souveraineté énergétique. On peut même se demander s'il n'était pas plus facile de bloquer un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, un parc d'animation dans l'Isère ou un bout d'autoroute à 69 du côté de Castres que ces mines du 21e siècle qui devraient se multiplier un peu partout. En France, on explore déjà plusieurs gisements du côté du Morvan, des Cévennes, des Vosges, de la Bretagne. Les élus verts, partisans de la transition énergétique, soutiennent la mine même s'ils réclament des mesures éco-responsables, comme on dit aujourd'hui, mais une mine entièrement propre, ça n'existe pas. Sur place, un vieux monsieur a parfaitement résumé la situation avec ces mots. Si je comprends bien, pour polluer moins, on va polluer plus.
Voilà le résumé que vous avez recueilli dans ce reportage département de l'Allier, qui est à lire aujourd'hui dans le 1 Hebdo. Merci Patrice Trappier. De C'est la France à C'est une chanson, c'est la chanteuse Juliette, qu'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric.
Elle est l'une des invitées de François Morel pour Ceux qu'a vu le pavé, spectacle de chansons de rue, de chansons sur la rue, présenté à partir de demain à l'auditorium du musée d'Orsay. Et c'est d'Édith Piaf que Juliette a souhaité parler.
Mon premier disque de Piaf, c'est Catherine Ribeiro, en réalité. Elle avait enregistré un 30 cm qui s'appelait le Blues de Piaf, dans lequel il y avait un paquet de chansons terribles. Et Ribeiro, en plus, avec sa voix invraisemblable. Moi, j'aimais beaucoup Catherine Ribeiro pour Catherine Ribeiro. Et le fait qu'elle sorte un disque sur Piaf m'a fait découvrir Piaf.
Vous aviez quel âge, à peu près ?
18 ans. Et je suis tombée dedans... Après, en écoutant La Voix de Piaf, que je connaissais bien sûr, je ne suis pas non plus né sur notre planète, mais je n'avais pas fait gaffe à la qualité incroyable de son répertoire. Il y a un truc qui se passe quand on entend Piaf, c'est qu'elle a une voix qui vous attrape, mais qui ne vous lâche pas, quoi. Et c'est une nature qui fait ça, ce n'est pas un travail. Piaf, elle a travaillé sa voix, elle a travaillé sa diction, elle a travaillé tout ce qu'on peut travailler dans le chant, mais ça, cette nature-là, ça s'apprend pas, c'est comme ça, ça vient de loin, c'est un truc qui vous mord, et c'est merveilleux.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi.
Cette chanson, Frédéric, c'est donc Padam, Padam, année de sortie 1951.
La musique est de Norbert Glanzberg, les paroles sont d'Henri Comté, et dans le répertoire de Piaf, eh bien c'est la chanson préférée de Juliette.
Padam, c'est tralala, quoi. C'est une onomatopée de chanson. Et donc, c'est une chanson qui parle de chanson. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est vraiment le cœur qui bat, quoi. Elle est facile à chanter aussi, c'est-à-dire que les gens ont envie de reprendre le refrain. Padam, padam, padam. Et moi, alors mon histoire avec Padam, c'est d'abord une chanson que j'ai chantée pendant très longtemps, parce qu'elle est hyper jouissive à chanter. C'est une chanson à voix, elle est assez marrante, il y a des notes tenues, il y a de la puissance à mettre. J'ai toujours aimé chanter cette chanson, et il se trouve que j'ai appris assez tardivement que quand ma maman était jeune, elle n'était pas du tout chanteuse ni musicienne, mais elle avait une jolie voix, et elle se faisait payer par ses copines pour chanter, en fait. Quand elle est... J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Quand elle était pensionnaire, elle se faisait payer en bonbons, en gâteaux, pour chanter des chansons, et dans son répertoire, il n'y avait pas d'âme. Donc il y a une histoire de famille, en plus, que je ne savais pas.
Votre maman, elle vous a vu chanter cette chanson ?
Oui, oui, bien sûr, oui. Et alors sa mère... Quand elle était jeune, elle avait des fans. C'est-à-dire que quand ma grand-mère était invitée à un mariage, il y avait des gens qui réussissaient à se faire inviter au mariage en question pour l'entendre chanter. Parce qu'elle chantait à la fin du repas, comme tout le monde faisait d'ailleurs à l'époque. Et elle avait des admirateurs secrets comme ça qui réussissaient à se faire inviter de mariage en mariage quand ils savaient qu'elle était là pour l'entendre chanter. Donc vous voyez, c'est finalement la chanson une vieille histoire de famille.
Chanteuse de mère en fille.
Chanteuse de grand-mère en fille et en petite fille, ouais, absolument.
Padam, 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 des vêtus en voilà par un paquet, et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu.
J'ai une histoire avec cette chanson depuis toujours. Elle ne me quitte pas, elle est toujours présente. Quand je sais pas quoi faire, je l'arrange. Je fais des orchestrations pour Padam. Je suis en être à ma troisième ou quatrième orchestration pour orchestre symphonique, et voilà, c'est comme elle est, une obsession, quoi, en fait.
Donc c'est l'une des chansons de votre vie ?
Même, sans doute, la chanson de ma vie, même, carrément. Si je devais n'en garder qu'une, ça serait celle-là.
J'en ai tout un seul fer sur cet air qui bat comme un cœur de moi.
« Padam, Padam, Édith Piaf. C'était donc, Frédéric, le choix de la chanteuse Juliette.
Juliette que l'on retrouve à l'auditorium du Musée d'Orsay à partir de demain aux côtés de François Morel pour 4 soirées musicales en lien avec l'exposition L'Art est dans la rue.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Vous nous parlez des animaux
oui,
aujourd'hui.
On va essayer de comprendre ce qu'ils ont vécu, ressenti à différents moments de l'histoire.
Je vous dis à tout de suite dans La Terre au Carré.